Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que c'est un très bon moyen de prendre le pouls de la salle. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier ainsi que votre équipe pour ce projet de rapport. Vous avez fait du bon travail pour reprendre toutes les positions qui ont été exprimées cette semaine. Ce n'est pas facile et je pense que cet exercice est un excellent moyen de veiller à ce que toutes les délégations voient leur position reflétée dans le rapport. Alors, très rapidement, ce qui est essentiel pour nous lors de cette session, c'est ce qui suit. C'est une question majeure, fondamentale. Merci de nous l'avoir posée si directement parce que souvent nous tergiversons sans mettre toutes les cartes sur la table. Pour notre délégation, il y a trois éléments qui sont tout à fait indispensables pour que nous puissions aboutir vendredi. Le premier, c'est de ne pas nuire aux normes existantes. Il y a des points sur lesquels nous sommes tous d'accord. Par exemple, nous convenons tous que le DIH s'applique au système d'armes autonomes. Toutefois, la difficulté ici, c'est de voir comment exprimer comment le DIH s'applique, parce que nous risquons de cette façon d'affaiblir les normes existantes. Du point de vue de ma délégation, et nous pourrons entrer dans les détails lorsque nous commencerons à parler des paragraphes spécifiques, il y a des éléments dans le texte qui ne sont pas en adéquation avec les exigences actuelles du droit international et du droit international humanitaire. Parfois, c'est en raison de réserves, alors qu'une obligation claire existe. Parfois, c'est parce que le texte a été dilué, parce qu'on a supprimé des éléments. Mais je tiens au demeurant à souligner que je pense que ces aspects peuvent être corrigés. Deuxièmement, la colonne vertébrale du texte, et je crois que d'autres l'ont déjà dit, est la section qui concerne les interdictions et réglementations, plus particulièrement au paragraphe 20 et 21. Il s'agit d'éléments essentiels pour avoir des éléments additionnels, comme vous l'avez dit vous-même cette semaine, en plus des accords et ententes que nous avons déjà élaborés au sein du GEG ces dernières années. C'est tout à fait fondamental. L'idée du cadre pour les salas qui devraient contenir des interdictions et des réglementations est assez largement acceptée. Je ne pense pas que nous ayons entendu des oppositions à cette approche dans cette salle cette semaine ou lors de la dernière session du GEG. Bien sûr, il y a des divergences de vues assez profondes lorsque nous essayons d'entrer un peu plus dans les détails, mais fondamentalement, je crois que nous devrions tous être en mesure de nous accrocher à ce concept directeur sans lui assigner une étiquette ou sans le surcharger de détails. Toutes les délégations doivent pouvoir quitter cette salle vendredi, et je crois que c'est un point important que nous avons entendu de la part de différentes délégations, notamment les Philippines, notamment l'Autriche, Cuba et d'autres, en ayant le sentiment qu'aucune porte n'est fermée quant aux moyens de réglementer ou d'interdire ces systèmes. Et je crois que cet aspect peut être également corrigé dans votre texte. Enfin, l'élément humain et l'importance du rôle de l'être humain dans l'application de la force. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Cet aspect doit apparaître dans le rapport. Nous devons nous prémunir de toute idée qui relèguerait l'être humain à un observateur passif. Une nouvelle fois, il y a ici des désaccords, mais il y a aussi des solutions. Nous avons trouvé des moyens de régler le problème par le passé qui devraient être satisfaisants cette semaine aussi. Dans ce cadre, j'ajouterai que nous devons également refléter en ce qui concerne cet élément humain les considérations éthiques qui reflèteraient en fait le rôle central que ces considérations éthiques ont joué en tant que force motrice pour notre groupe. Voilà donc les trois points essentiels pour nous. Nous vous transmettrons ensuite des